Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire UDI de Mennecy, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors d'abord un mot sur le drame qui s'est déroulé à Lille, l'effondrement de deux immeubles dans une rue tranquille. Une personne est décédée, mais le bilan aurait pu être encore plus lourd si les habitants du premier immeuble n'avaient pas été évacués en pleine nuit. Le ministre du Logement s'est rendu sur place. Une enquête d'experts devra dire précisément ce qui s'est passé. Vous qui êtes en charge du logement à la région Île-de-France, quelles leçons peut-on tirer d'un tel accident? On se demande bien sûr si de tels drames ne risque pas d'arriver dans d'autres villes.
Bah, écoutez, déjà, on est face à un miracle. Une seule victime avec ces deux bâtiments qui se sont effondrés, on aurait pu être sur un bilan bien pire. La réalité, c'est que à ce stade, les causes de ces effondrements, je n'en sais rien aujourd'hui, mais on constate que ce soit à Paris, à rue de Trévis, que ce soit à Marseille, il y a de cela quelques mois, à Lille aujourd'hui, qu'on a une partie du parc immobilier français qui aujourd'hui connaît un certain nombre d'abandons, un certain nombre de carences, et que la question du logement, qui souvent est vue sous l'angle de la construction, doit aussi être vue sous l'angle de la rénovation. On parle beaucoup de la question de la rénovation thermique des bâtiments aujourd'hui. C'est une réalité. La question de l'entretien et de la rénovation pure et simple, des structures d'habitat elles-mêmes, c'est un chantier colossal et je pense qu'il faut effectivement que l'État s'en empare.
Alors, j'en reviens à la question du logement. Les prix de l'énergie ont augmenté dans les HLM et dans certaines copropriétés. On a un peu de mal à comprendre qui peut bénéficier du bouclier tarifaire aujourd'hui. Quels sont les risques à court et moyen terme pour les habitants de ces logements ?
Le risque, c'est d'avoir une explosion sociale cet hiver. Puisque le logement social et les copropriétés pour certaines d'entre elles ne sont pas couvertes par les boucliers tarifaires. Aujourd'hui, la réalité du bouclier tarifaire mis en place pour les particuliers par l'État, c'est une hausse de 15% sur les tarifs réglementés. Or, il s'avère que beaucoup de bailleurs sociaux ou de copropriétés, lorsqu'ils ont des contrats qui sont indexés ou qui arrivent à terme, ne sont pas couverts par ce bouclier et voient donc des augmentations de coûts extrêmement élevées, y compris pour des personnes ou des familles qui sont modestes. Dans une commune comme la mienne, un certain nombre de bailleurs sociaux différents sont amenés à devoir faire, parce qu'ils ont l'obligation légale de devoir le faire, des appels en prévision de charges qui vont de 50 à 150 euros par mois et par logement. 150 euros par mois sur un logement de T5 pour une famille qui a 3 ou 4 enfants et qui vit avec moins de 4000 euros par mois, ça veut dire 1800 euros par an, c'est quelque chose qui est totalement insupportable. Alors aujourd'hui, le gouvernement est en train d'essayer de réfléchir à la façon dont il pourrait y avoir des remboursements de fait, mais c'est quelque chose de totalement impossible. On va demander à des gens qui ont des petits revenus, qui vivent une augmentation du chauffage colossale, de faire une avance de trésorerie. Je pense que à ce stade, on n'a pas encore pris au niveau du sommet de l'État le niveau de l'enjeu en termes d'urgence sociale, et que si cette prise de conscience n'est pas faite, on peut avoir une explosion sociale cet hiver. Je rajouterai à ça que les collectivités locales aujourd'hui ne sont pas couvertes. Il est question de mettre en place un bouclier, mais aujourd'hui strictement rien de concret n'est fait, n'est sorti ou n'est écrit, et que beaucoup de collectivités locales risquent de se retrouver à couper des services publics, à réduire les aides sociales aux personnes en difficulté, voire pour certaines d'entre elles à faire comme Madame Hidalgo, d'augmenter de 52% les impôts.
Le maire de Neuilly-sur-Marne a récemment alerté les médias sur l'augmentation des coûts de l'énergie pour sa commune. Il a accusé les fournisseurs d'énergie de racketter les villes. Comment cela se passe-t-il dans votre ville de Mennecy ?
Comme dans toutes les communes, c'est extrêmement compliqué. J'ai la chance et le bonheur pour mes habitants d'avoir un contrat de chauffage qui me garantit un prix du gaz jusqu'en juin 2024. Concernant le tarif d'électricité, au 1er janvier, nous sommes en fin de contrat. Nous avons eu une seule réponse dans le cadre d'un groupement de commandes regroupant une vingtaine de communes et nous serons sur un tarif définitif qui sera multiplié par 4 à 5. C'est-à-dire que sur une commune comme la mienne, si l'État ne met pas en place de bouclier, nous payons sur les 12 derniers mois un peu moins de 500 000 euros. Nous pouvons nous retrouver à devoir payer 2 500 000 euros sur un budget de 20 millions.
On voit qu'en Grande-Bretagne, Jean-Philippe Dugoin-Clément, des habitants sont obligés de vivre sans chauffage en raison de l'explosion des prix. Il y a tout de même un bouclier tarifaire en France pour les particuliers. Ça vous fait peur ce que vous voyez de l'autre côté de la Manche puisque certaines communes installent même des îlots de chaleur pour les habitants?
Mais excusez-moi, mais on n'est pas loin d'y être. Alors, la Grande-Bretagne, le gouvernement anglais n'a pas mis les mêmes systèmes de protection que ce qui a été mis en France, mais je pense que ceux qui sont mis en France ne seront pas suffisants. Plus 15% sur les tarifs réglementés, certaines familles ne pourront pas se chauffer. Quand on va être à 50, 60, 70% d'augmentation du chauffage pour des familles qui vivent en logement social, c'est des familles qui ne pourront pas se chauffer ou qui vont commencer à créer des dettes de loyer pour pouvoir se chauffer ou qui vont commencer à créer des dettes ailleurs pour pouvoir se chauffer. Sur une commune comme la mienne, avec l'explosion du prix de l'énergie, on va être sur un blackout de l'électricité la nuit, je ne chauffe plus les gymnases et les vestiaires. Donc on est sur des choses un peu moins pires qu'en Grande-Bretagne, mais on est sur un choc énergétique dont les gens n'ont pas encore conscience de l'ampleur et de la violence.
Jean-Philippe Dugoin-Clément, comment retrouver des prix de l'énergie acceptables? Comment peut-on agir sur les prix aujourd'hui?
Il y a plusieurs choses. Déjà, le problème de fond, c'est de recréer une politique énergétique dans ce pays. On a vécu comme des cigales, en bénéficiant d'une électricité à très bas coût parce que produite par l'énergie nucléaire, sur un parc nucléaire fini d'être payé, amorti et qu'on n'entretenait plus, puisqu'on disait, on vivait sur le mythe de dire qu'on allait sortir du nucléaire, et puis quand il y avait des besoins d'écrêtement en période hivernale, on achetait du gaz russe à bas coût, ce qui permettait de passer la période de pic. On se rend compte aujourd'hui que ça n'est plus possible. Donc la première chose, c'est de relancer une politique énergétique de production. Ça, le gouvernement s'en est emparé, et c'est des logiques à 10 ans. Ensuite, il y a des solutions immédiates qui doivent être mises en place. La première, on doit absolument désindexer le prix de l'électricité sur le gaz. Parce qu'autant sur le gaz, on a aujourd'hui une situation de pénurie. Alors, le gouvernement négocie pour les racheter du gaz algérien à la place du gaz russe. Très bien, mais il ne va pas arriver immédiatement. Mais le gaz est une situation de pénurie d'électricité. On a le phénomène de l'indexation du tarif de l'électricité sur le gaz qui nous plante de manière totalement déconnecté de la réalité du coût de production. Et puis, on a également un certain nombre d'entreprises ou un certain nombre d'acteurs qui profitent de la situation pour faire des marges absolument folles. Et je pense aujourd'hui qu'il faut bloquer les prix de l'énergie. Le gouvernement doit faire preuve d'autorité. Le gouvernement doit montrer qu'on est dans un pays qui n'est pas un pays mou, où le gouvernement est en situation de pouvoir imposer. Il en va de la défense des intérêts fondamentaux de ses habitants.
Jean-Philippe Dugoin-Clément, les forces politiques sont très fragmentées à l'Assemblée nationale. Le budget a été adopté avec le 49-3. Est-ce que cette situation est tenable sur le long terme? Est-ce qu'une dissolution est une hypothèse sérieuse aujourd'hui?
Est-ce que la situation est tenable durablement? Oui. Est-ce qu'elle est rationnelle, souhaitable et équilibrée? Non. Est-ce qu'une dissolution est envisageable? Oui, mais la dissolution, si on se dit les choses, elle ne dépend que du souhait du président de la République et donc de l'intérêt du président de la République et de l'AREM. Tout autre facteur n'est pas un facteur de dissolution, y compris une motion de censure qui serait votée, ça fait tomber un gouvernement, mais ça n'entraîne pas une dissolution. Et je ne vois pas le président de la République prendre le risque de dissoudre pour passer d'une majorité relative à une minorité. Et donc la seule question est, est-ce que le président de la République pense, au moment où il appuie sur le bouton nucléaire, avoir un créneau de tir pour pouvoir récupérer une majorité ou renforcer sa situation à l'Assemblée nationale? Tout le reste, c'est de la politique fiction.
On est toujours dans la politique fiction. La France insoumise est déjà en campagne pour les législatives en prévision de cette dissolution. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon et ses amis ont raison de se préparer à cette éventualité?
Non, mais la France insoumise, c'est le bobard permanent. Excusez-moi, Monsieur Mélenchon, c'était celui qui vous expliquait qu'il allait être Premier ministre, alors qu'il ressort avec 140 députés, dont 70 LFI, les autres étant des PS, des Verts et des communistes, avec qui il ne s'entend plus, avec qui il ne se parle plus aujourd'hui. Monsieur Mélenchon, il fait de l'agitprop politique, il fait de la communication politique, il l'a fait extrêmement bien, mais ça reste de creux, ça reste du vent.
Est-ce que vous craignez aujourd'hui une révolte sociale comparable à celle des Gilets jaunes? Vous avez parlé d'explosion sociale tout à l'heure.
Je pense que si le gouvernement ne met pas en place des pare-feux, des blocages sur le prix de l'énergie, on peut avoir pire cet hiver, oui.
Alors on va changer de sujet, Jean-Philippe Dugoin-Clément. Qu'avez-vous pensé de l'arrivée de l'Ocean Viking à Toulon et de la crise sur la question des migrants entre la France et l'Italie? Avec le nouveau pouvoir en place en Italie, on peut imaginer que Rome va continuer de refuser d'accueillir des navires humanitaires. Que devra faire la France?
Bah, je pense que c'est une faute politique d'avoir accepté ce bateau en France. Je peux comprendre du point de vue de l'empathie, mais politiquement, c'est donner le signal qu'un bateau qui est en Méditerranée avec des migrants, eh bien, un pays lui ouvrira ses portes et que ce pays, c'est la France. Et on risque de créer un appel d'air et d'augmenter le nombre de malheureux qu'on va mettre dans ces situations et sur ces bateaux-là. Donc je pense que c'est une faute politique d'avoir accepté ce bateau en France et que nous n'aurions pas dû le faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose par rapport à l'Italie, la situation de l'Italie est extrêmement compliquée. Enfin, si l'Italie a mis en tête l'extrême droite lors de ces dernières élections, c'est aussi parce que depuis quelques années déjà, l'Italie est en première ligne par rapport à ce phénomène et n'a pas su l'endiguer. Et je pense qu'aujourd'hui, qu'on ait une situation, une position ferme par rapport à l'Italie, c'est une chose, mais on devrait mettre au moins autant de fermeté par rapport aux États d'où viennent les migrants qui ne contrôlent pas leur immigration que par rapport à l'Italie.
Vous avez le sentiment que cette affaire de l'Ocean Viking peut faire monter le Rassemblement national?
C'est pas un sentiment, c'est une évidence, oui.
Aujourd'hui, le Rassemblement national, s'il y avait une dissolution, aurait encore plus de députés?
Je pense qu'il gagnerait quelques députés. En l'état actuel, je ne pense pas que ça soit suffisant pour qu'il soit majoritaire. Mais si on se dit très clairement les choses, je pense que si on avait une dissolution demain, le Rassemblement national serait le parti qui ressortirait renforcé. Parce que l'ensemble des phénomènes qui ont créé le vote Rassemblement national, la non-prise en compte d'un certain nombre de phénomènes avec d'appauvrissement du pays, de décrochage d'une partie du pays. Vous savez, ces deux France qui s'éloignent avec toute une partie de cette France qui estime aujourd'hui avoir plus de devoirs que de droits et avoir le droit de payer pour les autres. Eh bien, je pense que ces questions-là n'ont pas été prises en compte. On continue à avoir des grands curseurs politiques qui sont destinés à la France des métropoles qui va bien, pas à la France profonde, à la France du quotidien qui décroche et qui va mal. Une France qui est fatiguée, une France qui est exaspérée et une France qui se tourne vers les extrêmes, extrême gauche ou extrême droite. La réalité de l'extrême gauche, c'est qu'aujourd'hui, Monsieur Mélenchon s'est tellement affaibli, appauvri et abîmé du fait de ses outrances et des outrances de ses alliés tels que Madame Rousseau, que ce vote de colère, il ira plutôt vers l'extrême droite que vers l'extrême gauche.
Vous avez le sentiment que pour éviter l'extrême droite, il faudrait un président qui soit de la droite et du centre?
Écoutez, moi, il vous a pas échappé que je soutenais une candidate de la droite et du centre qui avait des positions assez fortes et assez fermes sur les questions régaliennes. Je pense que si nous ne sommes pas capables de tenir un discours régalien fort, si nous ne sommes pas capables de redonner confiance dans ce pays en lui-même, si nous ne sommes pas capables de rassembler, de réunir ce pays, et réunir ce pays pour toute cette partie de la France qui se sent totalement oubliée de ceux qui vont bien, de ceux qui décident, eh bien on continuera à avoir une augmentation l'implantation du Front National. Le Front National, tendanciellement, depuis 40 ans, a vu ses parts de marché augmenter, alors même que on s'aperçoit que il y a des discours qui sont totalement non réalistes, non crédibles, qui sont à géométrie variable. Madame Le Pen, il y a 20 ans, se prononçait pour la hausse de l'allongement de la durée des retraites. Aujourd'hui, elle est contre. On s'aperçoit qu'on est sur un parti qui est touché, comme beaucoup d'autres, par des problèmes de financement. On s'aperçoit qu'on est sur un parti avec un certain nombre d'individus ou d'hurluberlus qui tiennent sur les tribunes de l'Assemblée nationale des propos racistes et haineux. La réalité, c'est que le phénomène de colère qui est lié à un sentiment d'abandon et de mépris de la part des élites parisiennes, il continue à exister, il n'est pas pris en compte. Et si on n'est pas capable de répondre à ça, on ira inéluctablement vers une montée continue de ce parti. Moi, je ne souhaite pas avoir Madame Le Pen, Monsieur Bardella ou leur site qui un jour soit à l'Élysée à Matignon, mais c'est un risque si on continue tel qu'on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire avec des œillères.
Jean-Philippe Dugoin-Clément, une question sur la région Île-de-France. Comment expliquez-vous les dysfonctionnements actuels dans les transports en commun? Pourquoi n'arrive-t-on pas à recruter de nouveaux conducteurs de bus et de métro?
Pourquoi? Tout simplement parce que, comme dans ce pays, nous avons des dizaines de métiers qui sont en tension, avec des entreprises qui ont du mal à recruter. C'est lié à plusieurs phénomènes. Il y a d'une part un accompagnement sur la formation, sur la qualification tout au long de sa vie. Et puis, il y a également, et c'est toute la question de la réforme de l'assurance chômage, dont on parle beaucoup aujourd'hui, et qui ne correspond pas à un pays où on est à un niveau de chômage plus faible que ce qu'on a pu connaître ces dernières années. Le niveau de chômage a diminué depuis une demi-douzaine d'années. C'est une bonne chose. Il faut le mettre au crédit du gouvernement, parce que de ce point de vue-là, il y a eu des résultats. Mais la réalité, c'est qu'on est dans un système aujourd'hui qui ne pousse pas suffisamment à l'emploi et au travail.
Pour les usagers, il y a une question qui se pose concrètement. Est-ce qu'il y a un risque de voir passer le prix du pass Navigo de 75 à 100 euros ?
Il y a un risque pour toute une série de phénomènes. La hausse du coût de l'énergie en est une, l'inflation en est une autre. La non prise en charge par l'État, comme ça a été fait dans de très nombreuses capitales européennes nord-américaine de la dette Covid, du déficit Covid, c'est-à-dire du déficit généré par le fait d'avoir maintenu des services publics en fonctionnement alors que plus personne ne les prenait, donc il n'y avait plus de recettes en face, font qu'aujourd'hui, il y a un problème d'équation financière. Cette équation financière, la question est de savoir est-ce que les collectivités mettent davantage, est-ce que les entreprises mettent davantage ou est-ce que c'est les usagers ? En caricaturant un petit peu les choses. Et donc, il y a un risque réel aujourd'hui qui va être tranché et arbitré dans les mois qui viennent. La présidente de la région Île-de-France organisera dans les prochaines semaines des assises sur le financement de des transports en Île-de-France, de manière à pouvoir travailler avec l'ensemble des acteurs sur les meilleures ou les moins mauvaises des pistes.
Merci Jean-Philippe Dugoin-Clément. Je rappelle que vous êtes maire UDI de Mennecy et vice-président du Conseil régional d'Île-de-France. Bonsoir.
Bonsoir, merci à vous.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.